l'épître de Paul à Philémon. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi, à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Et moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai, pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Amen. Jusqu'ici, l'épître de Philémon, parole de Dieu. J'ai intitulé mon message « Pas de liberté sans amour » et « Pas d'amour sans liberté ». Et la vérité centrale que j'ai vue dans ce texte, c'est que nous sommes tous redevables de nous aimer les uns les autres. Nous sommes tous redevables de nous aimer les uns les autres, et je vais développer ça en trois points. Premièrement, eh bien, si nous nous disons libres, la vraie liberté nous rend redevables. La vraie liberté nous rend redevables. Deuxièmement, nous verrons que la vraie liberté nous rend redevables de quoi ? De nous aimer les uns les autres. Et troisièmement, nous verrons pourquoi nous pouvons nous aimer les uns les autres. C'est possible. Alors, une petite introduction donc sur cette épître, où Paul, l'apôtre Paul s'adresse à Philémon. Philémon, c'était un homme riche, c'était aussi un chrétien, un frère en Christ. Donc, Paul s'adresse à Philémon, aussi à Aphia et Archippe. On suppose que c'était sa famille, peut-être son épouse, son fils. En tout cas, c'était sa famille, puisqu'après, il est question de l'église qui est dans ta maison, que Paul salue. Paul salue, dans ses salutations, l'église qui est dans la maison de Philémon. Donc il avait une église de maison, au verset 2. Et maison de Philémon qui servait d'accueil à l'église de Colosse, qui servait de lieu d'accueil à Colosse, en tout cas. Alors Paul, donc, dans sa lettre, il dit qu'il avait eu de bonnes nouvelles de Philémon, et de l'église de Colosse par Épaphras. Alors Paul, il avait une équipe avec lui, il ne travaillait pas seul. Et il avait des collaborateurs qui cite ici, hein, il s'agit de Marc, il s'agit de Luc, Aristarque, Démas, Tichique, et, n'oublions pas, Onésime. Onésime était aussi son collaborateur. Alors on voit tout le cœur de l'apôtre Paul, puisque même, il était en prison hein, quand il écrit ses lettres, et même en prison, il prenait des nouvelles des différentes assemblées, qu'il avait fondé ou pas. Et donc, la lettre de Paul à Philémon, c'est bien de la mettre, elle fait écho à la lettre, à son épître, à l'église de Colosse. parce qu'elles ont été écrites à peu près au même moment. Elles font partie, donc, ces épîtres, des épîtres dites de captivité, puisque Paul était en prison lorsqu'il les a écrites, de même que l'épître aux Éphésiens et aux Philippiens. Voilà, donc pour présenter le contexte de cette lettre. Alors, il est question, donc vous avez vu dans cette lettre, de Philémon, mais pas seulement, de quelqu'un qui s'appelle Onésime. Onésime, eh bien, voyons qui était Onésime et son parcours, qui est l'objet de la requête de Paul à Philémon, dans sa lettre. Onésime, c'était un esclave. C'était un esclave. L'esclavage était courant à l'époque. Et c'était même normal, à l'époque, je dis bien. Philémon, eh bien, il avait donc acheté Onésime à prix d'argent. Mais voilà, on apprend dans cette lettre que Onésime s'était enfui de chez son maître. Et probablement qu'il lui avait dérobé quelque chose, puisque Paul dit « s'il te doit quelque chose ». Alors, est-ce qu'il lui avait dérobé de l'argent? En tout cas, voilà. Alors, Onésime, lui, l'esclave Onésime, il aspirait à une chose, il voulait être libre. Il voulait être libre, assez de travailler pour rien. Peut-être il pensait ça. Alors que quand même, il était nourri, il était logé, et qui plus est, il avait un maître chrétien. Ça faisait la différence. Donc voilà qu'Onésime, le fugitif Onésime, eh bien, il avait pris un bateau pour aller à Rome. Il s'est retrouvé à Rome, où il devait se croire en sécurité. Ah, personne ne le connaissait, là. Super, la liberté. Pas de compte à rendre à personne. Mais, en y réfléchissant bien, peut-être qu'il va falloir travailler, là, parce qu'il faut bien gagner sa vie pour manger. Et puis, au fait, tous les chrétiens, tous les patrons ne sont pas des chrétiens, contrairement à mon maître, de ce qu'il pensait. Onésime, donc, le voilà donc à Rome. Et on sait, d'après Actes, le livre des Actes, chapitre 28, verset 30, que Paul aussi était à Rome. Il était à Rome et il avait loué un appartement dans lequel il recevait des personnes pour leur prêcher Christ à Rome. Et il était en liberté surveillée. Hein, il était prisonnier, mais en liberté surveillée. Et il se trouve que par un concours de circonstances, qu'on peut dire divin, hein, n'en doutons pas, eh bien, Onésime a rencontré l'apôtre Paul à Rome, et très probablement dans sa maison qu'il avait louée, où il prêchait Christ. Et c'est là que Onésime s'est converti. Au contact d'un homme aussi, d'un chrétien aussi persuasif que l'apôtre Paul, Onésime est devenu chrétien. Pas étonnant, hein, quand on lit les épîtres de Paul, il était persuasif. Et Paul, il appelle Onésime son fils spirituel. Paul est devenu son père spirituel. Ce qu'il dit au verset 10, « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré et tend dans les chaînes, Onésime. » Paul était donc le père spirituel d'Onésime parce qu'il avait amené à Christ. Onésime, dans la maison de son maître, avant de s'enfuir, ne doutons pas qu'il a certainement entendu des prédications dans l'église de maison qui était chez Philémon. Mais là, en présence de l'apôtre Paul, il a dû être convaincu. Il a dû être convaincu. Lui, esclave en fuite, en quête de liberté, eh bien, il avait en face de lui un homme, un vieillard, un prisonnier, mais qui, lui, était réellement libre, intérieurement, parce que malgré ses chaînes, eh bien, il était enfant de Dieu, il était chrétien, Paul. Il n'avait rien à prouver à personne. Il se savait libre intérieurement, même s'il était dans les chaînes. Et c'est certainement ça qui a touché Onésime, qui a compris qu'il n'était pas seulement esclave de ses propres passions dans son cœur, il n'était pas seulement esclave de son égoïsme, de sa révolte, de son envie de posséder, si toutefois il avait dérobé quelque chose à quelqu'un. Il était pas seulement esclave de Philémon, mais il était esclave de ses passions dans son cœur. Il était en un mot esclave de son péché. En présence de l'apôtre Paul, il a compris, bien sûr, Dieu travaillait dans son cœur, il a compris son état de pécheur. Et il a compris ce que c'était que la vraie liberté à laquelle il aspirait tant, elle est avant tout intérieure. elle est intérieure quand on a reçu le pardon de Jésus dans sa vie. Là-haut, quel que soit l'endroit où on se trouve, nous sommes libres en Jésus-Christ. Et Paul savait de quoi il parlait. Et puis, eh bien, une amitié s'est développée entre les deux hommes, entre Paul et Onésime, au fil des jours. Et Onésime est devenu le serviteur de l'apôtre Paul, devenant ainsi utile à l'apôtre. Et d'ailleurs, Paul le dit bien à Philémon, au verset 11, en parlant d'Onésime, « Lui qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. » Et effectivement, le prénom Onésime, le nom Onésime veut dire « utile ». Onésime a fini par bien porter son nom. Il a mal commencé, mais il a fini par bien porter son nom. Au contact de Paul, donc, Onésime a connu la vraie liberté. La vraie liberté, celle de devenir chrétien. Et Paul l'a pris donc comme son serviteur, mais Paul ne va pas le garder comme son serviteur. Au contraire, il va le persuader de retourner chez son maître Philémon. Pourquoi ? Parce que la vraie liberté nous rend redevable, mon premier point. La vraie liberté nous rend redevable. Alors, j'ai imaginé, enfin bon, j'ai pris sur un manuel qui est une illustration qui raconte cette histoire des enfants. Eh bien, on imagine bien Paul parler à Onésime de cette manière-là, c'est pas marqué dans la Bible, mais on entend bien lui dire ceci. Onésime, tu as mis les choses en règle avec Dieu. En ordre avec Dieu. Maintenant, il te faut mettre les choses en ordre avec Philémon. Ton maître t'avait acheté. Et voilà des mois que tu ne travailles plus pour lui. Tu dois retourner le voir. Ça me fend le cœur parce que tu m'es bien utile ici. Mais c'est juste de te laisser partir. Voilà, on peut supposer qu'ils se sont parlé comme ça. Et c'est ce qui va se produire. Paul a convaincu Onésime. Alors, Onésime a compris que Jésus s'est fait punir à sa place pour le libérer de l'esclavage de son péché. Et c'est justement d'avoir été libre, d'avoir été rendu vraiment libre en Jésus-Christ. Cette liberté nécessitait maintenant de régler l'affaire avec son maître qu'il avait fui et il avait une dette envers son maître. Jésus a tout payé son péché. Mais dans ses rapports avec son maître, il continuait d'avoir une dette. L'esclave libre, il est redevable de retourner chez son maître, envers lui. Il avait une dette. Il est redevable de retourner chez Philémon en tant qu'esclave. Et s'il avait volé de l'argent, de le lui rendre. Le salut en Jésus-Christ nous libère du châtiment du péché et de sa puissance. Amen, alléluia, c'est une certitude. Le salut en Jésus-Christ que Jésus a fait pour nous à la croix, de donner sa vie, nous enlève notre dette vis-à-vis de Dieu, comme ça a été dit ce matin. Mais le salut en Jésus-Christ n'enlève pas la dette que nous pouvons avoir les uns envers les autres. Lorsqu'il y a eu tort, eh bien une réparation est parfois nécessaire. Et là, frères et sœurs, est la vraie liberté, de vouloir réparer lorsqu'il y a eu tort. Alors donc, voilà Onésime sur le chemin du retour vers Colosse. Imaginons-le sur le bateau, en route, il quitte Rome, en route vers Colosse. Imaginons son état, comment est-ce qu'il devait se sentir ? Eh bien, il devait avoir peur, Onésime. Il devait avoir peur parce que la loi romaine punissait les esclaves évadés d'être marqués au fer rouge sur le front. Alors on ne passait pas inaperçu. Et il risquait la peine de mort, Onésime, en tant qu'esclave évadé à l'époque, à cause de la loi romaine. Donc il devait avoir cette crainte. Et puis aussi la crainte de comment est-ce que Philémon allait-il le recevoir ? Quand même, il lui a fait du tort à son maître. Alors certainement, puisque Onésime était devenu chrétien au contact de Paul, certainement qu'il a prié pendant le voyage de retour vers Colosse. Mais ce qui a dû l'encourager aussi pendant son voyage, c'est qu'il ne voyageait pas seul. Paul avait pris soin d'envoyer Onésime avec le frère Tychique pour porter à l'église de Colosse sa lettre aux Colossiens, que nous avons dans la Bible, l'épître de Paul aux Colossiens, et vous pouvez voir ça en Colossiens chapitre 4, et d'ailleurs c'est 7 à 9. où Onésime est cité. Et donc probablement que, avec cette épître de Paul aux Colossiens, ils avaient aussi la lettre de Paul à Philémon. Et voilà donc cette épître qui arrive chez Philémon. Alors, à la lecture de cette lettre, comment Philémon allait-il réagir? Alors, Paul, il y a mis les formes dans sa lettre. C'est vraiment un modèle, sa lettre, un modèle c'est une lettre de recommandation, hein, qui est signée de sa propre main. Hein. Il a signé de sa propre main. Cette lettre, elle est pleine d'amour, elle est pleine de tact, elle est pleine de courtoisie. Cette lettre, elle est destinée à prévenir un conflit. Elle est destinée à exhorter et à pardonner et à accueillir. Cette lettre, c'est un joyau. Si on cherche des modèles de lettres, eh bien, en voilà un. Par sa lettre à Philémon, eh bien, Paul, il mettait lui-même en action ce qu'il prêchait aux églises. Et il a voulu donner, pas seulement à Philémon, pas seulement à l'église, mais à nous aujourd'hui, un enseignement très pratique sur le thème du pardon, sur le thème de l'amour et de la vraie liberté. Alors oui, la liberté que Jésus nous a acquise par sa mort sur la croix, nous sommes libres par rapport au péché, nous sommes libres de ne pas pécher, de ne plus pécher, nous sommes libres par rapport à ça. Et aussi, nous sommes plus redevables par rapport à Dieu, puisque Jésus a payé notre dette, par amour pour nous. Cette liberté, eh bien, elle nous rend redevables entre frères et sœurs. Mais redevables de quoi? Qu'est-ce que nous nous devons les uns aux autres? Eh bien, nous nous devons de nous aimer les uns les autres. C'est mon deuxième point. La vraie liberté nous rend redevables de nous aimer les uns les autres. Alors, Paul, dans sa lettre, il y met la forme. Vous avez remarqué, hein, avant de demander, il va vraiment faire des éloges sur son ami, Philémon. Avant de lui faire sa requête, il va commencer par lui faire des éloges qui sont sincères. C'est son ami, son frère en Christ, et il lui dit, Paul dit à Philémon qu'il prie continuellement pour lui, verset 4, ce qui a certainement dû le toucher. Il lui fait des éloges de par les nouvelles qu'il a, comme quoi il marche fidèlement avec le Seigneur. Il lui fait des éloges au sujet de sa foi et de son amour pour tous les saints, verset 5, pour l'Église. Philémon, c'est clair, il ne vivait pas pour lui-même, mais il avait tranquilliser le cœur des saints, verset 7. Quel encouragement pour l'apôtre Paul! Parce que c'est Paul qui a emmené Philémon au Seigneur. Je vais y revenir un peu plus loin. Quel encouragement pour Paul de voir ce que le Seigneur a fait dans la vie de Philémon et aussi de Nésime. Alors voilà, Paul, il a relevé les points vraiment encourageants chez Philémon. Ce n'est qu'après qui va lui faire sa requête. Ce n'est qu'après qu'il va lui faire sa requête, il va lui demander quelque chose. Et l'obéissance, elle est plus facile lorsqu'elle est motivée par la foi en Christ et par l'amour. L'obéissance, elle est plus facile lorsqu'elle est motivée par la foi en Christ et par l'amour. Et c'est comme ça que Dieu procède avec nous, n'est-ce pas? On voit tout le tact de Paul. Il n'a pas commencé par parler d'Onésime. Après avoir rappelé à Philémon son amour envers l'Église, eh bien maintenant, il va lui exposer quoi? Son amour fraternel envers qui? Envers Onésime. Onésime, qui entre-temps est devenu chrétien. Il l'appelle, verset 10, il l'appelle affectueusement son enfant. Et verset 16, il l'appelle son frère bien-aimé, Onésime. Alors, le terrain est tout préparé, hein. Et Paul va aborder le sujet qui le préoccupe tant, le pardon et la réintégration de l'esclave évadé. Alors, Paul va donner à Philémon, il a quand même déjà manifesté beaucoup de fruits pour le Seigneur dans l'Église. Eh bien, Paul va donner à Philémon une occasion supplémentaire de montrer encore, de donner encore plus de fruits dans sa vie. Comment? En y rajoutant la dimension du pardon. Il s'agit de pardonner à celui qui l'a offensé, en l'occurrence Onésime, son esclave. Mais entre-temps, beaucoup de choses ont changé Les choses ont changé. Et Paul va s'empresser de le dire au début de sa requête. Pour prévenir Philémon que ce vaurien d'Onésime, c'est plus le même homme. Et voilà de quoi bouleverser Philémon. Imaginez sa surprise lorsqu'il lit dans l'épître de Paul, le verset 10, « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime. » Quelque chose d'extraordinaire s'est passé entre-temps. Eh bien, Onésime est devenu chrétien. Désormais, les rapports entre l'esclave et le maître sont ceux de deux frères en Christ. Désormais, le maître et l'esclave, Philémon et Onésime, ont un seul et même maître qui est Dieu. Ils ont un même maître dans le ciel. Onésime est devenu chrétien. Et d'ailleurs, la meilleure preuve qui soit, c'est qu'il retournait de son plein gré chez son maître, en tant qu'esclave. Il était encore esclave. Il avait acheté son maître. Et il retournait de son plein gré dans sa maison où il s'était mal conduit. Alors Paul va rappeler à Philémon et à nous que nous sommes tous redevables de nous aimer les uns les autres entre frères et sœurs. Et il le dit très clairement, il reprend ça dans son épître aux Romains, chapitre 13, verset 8, il dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Voilà de quoi nous sommes redevables les uns envers les autres, de nous aimer les uns les autres. Onésime est donc redevable envers son maître, qui l'a fui, qui l'a très probablement volé. Mais Philémon aussi, il est redevable envers son esclave. Redevable de quoi ? Bien, il est redevable de ne pas le punir, mais de l'aimer et de lui pardonner, à cause de ce qu'a fait Jésus pour lui. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et remarquons au passage que Paul, il ne demandait pas la liberté pour l'esclave Onésime. Et Paul n'essayait pas non plus par cette lettre d'abolir l'esclavage, parce que ça risquait de provoquer une insurrection sanglante. Ce n'est pas ce que voulait Paul. Non, quand le temps viendra, l'esclavage sera aboli. Qu'est-ce que Paul demandait à Philémon ? De pardonner à Onésime, et même d'aller encore plus loin, en le réintégrant, en l'accueillant de nouveau chez lui. Mais cette fois, plus seulement en tant qu'esclave, mais en tant que frère en Christ. C'était plus le même homme, Onésime. Les choses avaient changé. Alors Paul, il va encore user de persuasion. Comment ? Eh bien, Paul va rappeler à Philémon qu'il avait une dette encore plus grande envers lui. Quelle était cette dette ? Philémon avait envers Paul une dette encore plus grande que celle d'Onésime envers Philémon. Quelle était cette dette ? Eh bien, Paul lui dit que c'est par lui que Philémon, c'est Paul qui a amené Philémon au Seigneur. Et regardez ce qu'il dit, c'est très fort quand même, au verset 19. Paul dit à Philémon qu'il se doit lui-même à lui. C'est pas qu'il lui doit quelque chose, non, il se doit lui-même en tant que personne à Philémon. Ça veut dire tout entier. Alors oui, l'amour reçu rendait Philémon d'aimer aussi Paul et d'accéder à sa requête en obéissant de bon cœur, pas par contrainte. Et de là cette grande vérité. Si vous cherchez à aimer quelqu'un, la plus grande manifestation de l'amour de notre part envers notre prochain, c'est de l'amener à Christ, de vouloir l'amener à Christ. C'est Dieu hein, qui sauve, qui convainc. Mais ça, c'est une manifestation. C'est la plus grande manifestation de vouloir amener quelqu'un. Une manifestation d'amour, de vouloir amener quelqu'un à Christ. Mon troisième point, eh bien, pourquoi nous pouvons nous aimer les uns les autres ? Pourquoi c'est possible ? Paul, donc, il avait lui aussi un maître dans le ciel. Un maître qui lui avait pardonné et qui l'avait accueilli, bien sûr, Jésus-Christ. Paul se disait lui-même, c'est très fort, un prisonnier. Pas de Rome, mais prisonnier de qui ? De Jésus-Christ, verset 1 et verset 9. Paul se disait prisonnier de Jésus-Christ, verset 1 et verset 9. Et Paul, dans ce récit-là, eh bien, voyons-le comme un type de Christ. Paul va manifester les qualités qui étaient en Jésus-Christ. Et c'est ce que je vous propose de voir. Paul était un imitateur de Jésus-Christ. Et il le montre dans cette lettre. En face de Philémon, Paul a imité le Christ. Déjà, Paul, il a fait preuve d'humilité. Paul, c'était quand même l'apôtre Paul. Il n'a pas mis en avant son autorité d'apôtre pour écraser Philémon. Il pouvait le faire, il en avait la liberté, verset 8. Par là, il a imité Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a fait preuve de la plus grande humilité lorsqu'il a quitté son ciel, la gloire de son ciel, pour venir s'incarner en tant qu'homme, pour se limiter, pour venir vers nous, pour nous sauver. L'humilité, Paul a imité Christ par l'humilité. Paul, il a fait preuve d'abnégation en se passant des services d'Onésime. Jésus, qui méritait d'être servi, parce qu'il est le Fils de Dieu, il est le maître de tout. Jésus, qui méritait d'être servi, il s'est fait serviteur de tous, pour nous, afin de nous amener à Dieu, pour qu'il devienne notre frère aîné, et le frère de tous ceux qui croiront en lui. Jésus a dit en Marc 10, 45, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. » Onésime, il était incapable de payer sa dette envers Philémon. Esclave évadé. Alors que fait Paul? Il se fait le substitut d'Onésime. Il prend sa place. Il est prêt à payer pour lui. Comme si c'était Paul qui avait lésé Philémon. Regardez versets 8, 18 et 19. Voilà, voici ce qu'il dit. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai. Le réformateur Martin Luther, il a dit que nous sommes tous des Onésimes du Seigneur. Nous sommes tous des Onésimes du Seigneur. Cette histoire est la nôtre. Nous étions tous esclaves de notre ancienne nature, rebelles, incapables d'obéir à Dieu. Et imaginons notre vie qui est représentée, pour ceux qui pratiquent un peu la comptabilité, mais si vous avez un compte en banque, vous savez ce que c'est qu'une colonne débit, une colonne crédit. Imaginons notre vie qui est représentée par une colonne débit, ce que nous devons à Dieu, et une colonne crédit. La colonne débit, c'est tout ce que nous devons à Dieu, tous les péchés que nous avons commis dans notre vie. Et une colonne crédit, zéro, on n'a rien. On ne peut rien apporter à Dieu de ce que nous possédons, tant qu'on ne le connaît pas. La colonne crédit, elle est à zéro pour quelqu'un qui n'a pas encore accepté Christ. La dette de nos péchés, de nos fautes, elle est énorme. Comme l'a rappelé Morel ce matin, non seulement la dette de mon péché, mais la dette de l'humanité entière, elle est énorme. Et elle ne pouvait être payée qu'en une seule fois. Cette dette, elle nous séparait de Dieu, et nous étions incapables de la rembourser par nous-mêmes. Nous avions besoin de quelqu'un qui paye pour nous, un substitut. Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, la sixième parole de Jésus en croix, avant de remettre son esprit au Père, il a dit, en Jean 19, 30, « Tout est accompli ». Et le mot en grec, « tétélestai », en grec ancien, ça signifie payer, c'est payer en totalité. C'était un fait de victoire parce que Jésus a entièrement payé de son propre sang la dette de ton péché et du mien, cette dette qui nous rendait tous redevables à Dieu. Nous avions besoin d'un substitut, Jésus, le Fils de Dieu. C'est fait notre substitut. Et il a entièrement achevé sa mission de naître sur terre pour mourir pour nos péchés. Et le prix payé, il est suffisant. Le prix a été payé. La preuve qu'il est suffisant, c'est que Jésus, il est ressuscité. Le prix payé par Jésus de son sang, apporté à Dieu. Il est suffisant. La preuve, il est ressuscité. Ta dette, elle est payée.
Amen.
Lorsque nous croyons en lui, notre colonne débit, elle est remise à zéro. Tout est payé. Nous ne devons plus rien à Dieu. Alors Paul, qui se disait lui-même le prisonnier de Christ, il disait que c'était dans les chaînes qu'il avait engendré Onésime. Eh bien, c'est quand Jésus a été prisonnier. Lorsqu'il a été prisonnier de la croix, qu'il a engendré tous ceux qui croiraient en lui. Paul a imité le Christ. Paul s'est fait l'avocat d'Onésime devant Philémon. Nous avions besoin d'un avocat pour calmer la colère de Dieu sur nous. Jésus est cet avocat. Il est vivant et il intercède pour nous auprès du Père. Le Père est notre juge. Il est le juge. Jésus est notre avocat. Et l'accusateur, c'est Satan. Jésus intercède pour nous. Le prix est payé. Au verset 15, Paul dit que Onésime avait été séparé de son maître pour un temps, pour que son maître le retrouve pour l'éternité comme son frère en Christ. Et bien nous aussi, nous étions séparés de Dieu pour un temps à cause de nos fautes qui nous séparaient de Dieu. Et lorsque nous avons accepté Christ, plus de séparation. Christ est devenu notre frère aîné, nous sommes devenus ses frères, nous sommes devenus enfants du Père, enfants de Dieu, pour être avec lui pour toujours, pour l'éternité. Et aussi pour être ensemble, frères et sœurs, avec Dieu. Paul, au verset 12, il emploie une expression très forte. Il appelle Onésime une partie de lui-même. Paul, une partie de moi-même. Eh bien, lorsque nous avons reçu Jésus comme notre Sauveur, nous sommes devenus une partie de lui-même. Paul, au verset 17, il demande à Philémon, en parlant d'Onésime, « Reçois-le comme moi-même. » Dieu nous reçoit comme son propre Fils, Jésus, lorsque nous l'avons reçu comme notre Sauveur. Il nous reçoit comme si c'était son propre Fils, comme nous avons accepté Jésus dans notre vie. Bref, en Christ, nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance, à tout moment, quel que soit notre état, qu'on se sente bien ou pas, à tout moment, parce que ça ne nous sommes jamais occupés chez lui, à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Paul, il attendait une réponse de Philémon par sa lettre. Il lui fait une requête, donc il dit requête, il attend une réponse. Mais il attendait une réponse libre, une réponse pas forcée, verset 14, mais une réponse volontaire, dans l'amour. En un mot, il attendait son obéissance. Et regardez ce qu'il dit au verset 21. Il attendait non seulement son obéissance, mais il espérait que Philémon fasse même au-delà de ce qu'il lui demande, sachant même que tu feras même au-delà. Sachant que tu feras même au-delà. Au-delà de simplement ce qui est dû. Alors, notre colonne débit par rapport à Dieu, elle a été remise à zéro. Jésus a tout payé. Mais notre colonne crédit. Eh bien, si notre dette, notre colonne débit a été remise à zéro, le prix payé par Jésus va bien au-delà du remboursement de notre dette. Le prix payé par Jésus va bien au-delà du remboursement de notre dette parce qu'il est ressuscité. Notre colonne crédit n'est plus à zéro. Elle a été créditée de quoi ? De la vie éternelle et de l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Voilà ce que nous avons reçu, frères et sœurs. Et cet amour, qu'est-ce que nous en faisons ? Un amour redevable. Nous avons tant de crédits, eh bien, redevable. Ce crédit nous rend quoi ? Eh bien, nous rend redevables et capables de nous aimer les uns les autres, et aussi ceux de l'extérieur qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Parce que Jésus nous a aimés, alors qu'on ne le connaissait pas. Cette lettre de Paul à Philémon, c'est un bel exemple de mise en pratique de la foi chrétienne et d'imitation de Jésus-Christ. Paul a imité Jésus-Christ. Il n'était pas un super apôtre, c'est ce qu'il nous a demandé aussi à nous. D'imiter le Seigneur. Oubli de soi, délicatesse, humilité, douceur et persuasion. Il était persuasif, Paul. Et aussi, bien sûr, grâce et amour. Et lorsque Dieu nous demande quelque chose, eh bien, il attend aussi de notre part une réponse libre de chacun d'entre nous. Pas forcée, une réponse dans l'amour, face à ce que lui a fait pour nous. Jésus, oui, il a remis notre colonne débit à zéro, il nous a libérés de l'emprise du péché, il a comblé notre colonne crédit de son amour. Et de cette manière, nous sommes libres de ne pas pécher. Et nous sommes libres de lui obéir. Qui dit obéissance, dit soumission. Soumission, c'est littéralement se mettre sous. Et bien sûr, c'est un mot qui passe encore plus mal aujourd'hui dans notre société, où nous sommes dans un monde, dans le monde du chacun pour soi, où chacun fait ce qui lui plaît. Mais la vraie liberté nous rend redevables de nous aimer les uns les autres. Et ça passe par la soumission à Dieu, oui, mais aussi des uns envers les autres dans l'Église. Et Paul le dit, le même Paul le dit dans son épître aux Éphésiens, qui est aussi une épître de captivité. Il le dit en Éphésiens 5, verset 21, « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Le mot soumission, il n'a pas bonne presse parce qu'il est, il est mal compris. Mais là, de par cette lettre, Paul nous montre que c'est une soumission qui est de bon cœur, une soumission qui exclut toute domination. Selon l'exemple de Paul avec Philémon. Et regardez ce qu'il dit au verset 14. « Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. » Il y a mis l'effort en Paul, et ça a marché. Et là, Paul, il imitait encore le Christ qui est notre meilleur modèle, le Christ qui, selon Hébreux 5, verset 8, il a appris l'obéissance. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance. Jésus a appris l'obéissance. Lui, Dieu, il a appris l'obéissance à son Père. Jésus, le Fils parfait de Dieu, en parfaite communion avec son Père. Jésus qui ne fait qu'un avec lui, jamais rebellé contre son Père, il a appris l'obéissance dans sa chair d'homme. À plus forte raison, nous qui étions tous rebelles à cause de nos péchés, avons-nous besoin, si lui avait appris l'obéissance, nous avons besoin de l'apprendre, ça nous est terminé, frères et sœurs. Et je n'ai pas fini d'apprendre. C'est possible, parce que Jésus, il a obéi pour nous, pour nous rendre capables de lui obéir. Alors, eh bien, l'obéissance ne sert pas seulement à mater la rébellion, mais l'obéissance est une manifestation que nous aimons Dieu et que nous nous aimons les uns les autres. C'est une manifestation de l'amour, l'obéissance. Jésus a parfaitement obéi à son Père, en témoigne son baptême. Jésus, le seul qui n'avait pas besoin de se faire baptiser, il s'est fait baptiser. Marc 1, verset 9, il s'est fait baptiser. Lui qui n'en avait pas besoin. Pourquoi ? Eh bien, là encore, c'était par obéissance à son Père, pour être notre modèle. Parce que se faire baptiser, c'est la première marque d'obéissance envers le Seigneur, qui est demandée, que le Seigneur demande à un jeune converti, une jeune convertie. C'est la première marque d'obéissance, le baptême, qui ouvre la vie chrétienne à venir. On l'a vu, c'est cette magnifique journée de baptême où ça a été dit, le baptême n'est pas une fin en soi, c'est le début de la vie chrétienne, qu'on veut suivre le Seigneur. On a là une épître vraiment pleine de modèles qui nous portent à l'unité du Christ. Et puis quand on regarde bien, en y réfléchissant bien, toute la gloire revient à Dieu, c'est lui le chef d'orchestre. Regardez, Paul, il avait amené premièrement Philémon au Seigneur. Puis plus tard, lorsqu'il a été emprisonné à Rome, Paul a rencontré Onésime, l'esclave de Philémon qui était en fuite à Rome. Et Onésime s'est converti aussi au contact de Paul. Maître et esclave sont nés de nouveau par le même prédicateur, à des lieux très éloignés. Qui de mieux placé que ce prédicateur, Paul, en l'occurrence, pour servir de réconciliateur entre les deux hommes? Est-ce que c'est par un concours de circonstances que tout cela s'est produit? Est-ce que c'est le hasard? Bien sûr que non. Ça ne pouvait être orchestré que par Dieu, qui a conduit la route de chacun. Voilà de quoi faire réfléchir et de quoi faire fléchir, Philémon. Et croyons, n'en doutons pas, croyons que Dieu dirige aussi nos routes, il n'y a pas de hasard avec lui. Croyons qu'il a un plan pour nos vies et qu'il a un plan pour ce qu'il met sur notre vie, ce qu'il met sur notre route. Qu'il soit dans l'Église ou hors de l'Église, toujours pour mieux le connaître et pour aussi réconcilier avec lui les uns. Pour réconcilier avec lui et les uns avec les autres. Tous ceux qui croient ou qui croiront en Jésus. Amen. Je vais prier. Seigneur, quel exemple tu nous as laissé, toi le maître de l'univers, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, tu t'es humilié, Seigneur. Tu as appris l'obéissance, tu t'es fait homme, Seigneur, tu as souffert, et tu as parfaitement obéi à ton Père, Seigneur, avec qui tu es en parfaite communion. Merci pour l'exemple que tu nous as laissé. Seigneur, ce n'est pas un exemple au-delà de notre, qui n'est pas à notre portée. Tu nous demandes de t'imiter, Seigneur, et merci pour ce que Paul a fait envers Philémon et Onésime. Et Seigneur, nous voulons voir ta main sur, c'est toi qui avais orchestré tout cela. Donne-nous de voir, Seigneur, dans notre vie, dans les circonstances de notre vie, de voir ta main, ce que tu as préparé d'avance. Donne-nous d'interpréter, Seigneur, ce qui se passe dans notre vie, aussi bien les bons que les mauvais moments, d'interpréter tout cela à la lumière de ta parole et de comprendre ton plan, Seigneur, pour nous y intégrer, pour avancer avec toi, Seigneur. Et Seigneur, oui, c'est vrai que tu nous demandes notre obéissance, et Seigneur, c'est pas forcé, mais c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Merci, Seigneur, de ce que tu bâtis ton Église et de ce que ton plan s'accomplira en chacun de nous. Alors, rends-nous, Seigneur, oui, disposés à faire ta volonté, Seigneur, et merci parce que ton plan s'accomplira de toute manière. Que ça soit avec nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.